C'est ça, la vie de coach de vie. On consacre notre vie à celle des autres, à aider.
C'est comme si mes pères me disaient, sais-tu quoi, tu mérites ta place. Fait que là, tu prends confiance, soir après soir, tu deviens meilleur.
Les femmes, on va partager nos mauvais coups, mais les bons coups, on a peur d'être jugées ou on a peur que les gens nous trouvent prétentieuses. C'est
sans filtre.
Et mon invité, vous l'aimez, vous le connaissez, il est humoriste, animateur de l'émission Le Clan McLeod à C'est quoi? Peter McLeod est avec moi.
Salut.
Salut, Peter.
Ça va, Isa?
Ça va très bien. Je suis ravie que tu sois là. Tu viens de terminer ta tournée libre.
Oui, exact.
Donc là, tu étais libre pour venir nous parler.
J'ai regardé ça. Pour un gars qui vient de finir une tournée, j'ai fait « Colin, on va prendre ça plus relax. » Mais crime, j'ai comme deux shows par semaine parce qu'on fait des événements un peu plus corporatifs. Parce que pendant la tournée, on ne peut pas nécessairement faire ça parce qu'on se tire un peu dans les pieds, dans nos ventes de billets, dans les salles de spectacle. Puis là, je fais « Colin, j'en ai quand même pas mal à faire. » Mais en même temps, c'est tellement loin de la tournée. J'arrive là tout seul, genre avec un technicien, puis je placote avec les gens. C'est un petit show d'une heure. À un moment donné, je fais « Mon Dieu, c'est fini. Je suis déjà dans mon auto. » Mais c'est ça, la tournée est finie, mais là, on fait quelques... C'est juste avant la période des fêtes, alors c'est un bon moment pour faire ça, ces trucs-là.
Tu fais beaucoup de choses. Tu fais de la télévision, tu fais de la radio, tu as écrit un livre, entre autres, où tu parles beaucoup de toi, qui a été écrit par Samuel Larochelle, que j'ai relu hier. On s'en était déjà parlé. Ouais. Et je me surprenais d'apprendre encore des choses sur toi. La relation avec ton père, la relation avec ta mère, le fait que tu étais originaire d'une petite ville, pour pas dire un petit village.
C'est un petit village à 800 habitants.
C'est ça?
Ouais.
Est-ce que tu es... Puis là, maintenant, tu vis en ville, tu es un gars urbain, mais toujours lié à la campagne, gars de bois, tu sais?
Mais même à ça, je reste à Repentigny, mais j'appelle ma maison mon chalet en ville.
C'est vrai?
Oui, parce que je l'ai fait pratiquement comme un genre... Ça ressemble à un genre de sac à commis.
Il est en bois rond?
Non, mais non, c'est tout en beau bois à l'extérieur, des grosses poutres de bois. Je suis sur le bord de la rivière L'Assomption qui se décharge dans le fleuve Saint-Laurent à peu près à 500 pieds.
Est-ce que c'est toi qui l'as construit?
Non, elle a 120 ans. Mais je finis plus de la personnaliser, cette maison-là. C'est une histoire d'amour qui je pense que dans les prochains jours, ça va faire 18 ans que j'habite là.
Wow! Ouais, ça a été un coup de cœur? Tu as trouvé cette maison-là comme on se trouve une...
J'ai passé par une petite rue parce que je m'en allais visiter d'autres maisons. Puis en passant là, on a vu... J'étais avec l'agent d'immeuble à l'époque, la dame. Puis on avait vu cette pancarte-là. Fait « Colin, comment ça qu'elle n'est pas recensée dans le truc MLS? » J'ai dit « Moi, je l'aime. » Puis moi, j'étais un gars énormément de feeling. Là. Puis j'ai dit « Penses-tu que tu peux les rejoindre? » Elle dit « Ben oui. » Elle avait pris les coordonnées. Puis le lendemain, on avait pu aller visiter. À l'époque, j'étais allé avec José Boudreau.
Non.
Avec ma chum.
C'est vrai? José a dit quoi? Faut que t'achètes ça, Peter?
Ben, en rentrant les deux, on a fait « Ah, oh, mon Dieu, on est donc bien bien dans cette
une
maison
ancestrale, donc. »
Vraiment. Il y avait deux... Écoute, c'était tellement cute, cette maison-là. L'histoire de ça, c'est que c'est probablement la plus vieille rue de Repentigny. Les gens riches ou peut-être un peu plus fortunés de Montréal, ils avaient bâti des petits chalets. C'était tous des petits chalets. C'est tellement vieux qu'il n'y avait pas d'adresse, c'était des noms de fleurs.
Non.
Ouais, chaque maison, c'était un nom de fleurs. Puis moi, je me rappelle, il y a un monsieur Archambault dans la rue, moi, malheureusement, qui n'est plus sur la rue, mais il me racontait, lui, quand il était petit, cette maison-là, qu'est-ce qui se passait. C'était un médecin qui avait ça avec ses deux filles. Puis que quand il passait vis-à-vis de cette maison-là, il entendait ses filles qui pratiquaient, une genre qui jouait du trombone, l'autre qui jouait genre de la flûte, mais c'était incroyable. Là.
Et est-ce que tu sais quel était le nom de fleur de ta maison?
Non, je m'en rappelle pas. Mais voilà, deux ans, il est arrivé deux dames quand même assez âgées, puis il était sur ma pelouse, puis se promenait. Puis à un moment donné, je suis sorti, j'ai dit, peux-tu vous aider? Mais ouais, on habitait ici. Là,
c'était pas les deux filles qui jouaient de la musique?
Ouais, c'est les deux madames. Ouais.
Ah.
Je les ai invités à rentrer, mais je les regrettais après. Je les ai pas trouvés très... ils se promenaient, ils étaient dans leur monde à eux, mais ils regardaient, ils se parlaient entre eux, mais on dirait pas qu'ils ont accepté.
Que c'était à toi
maintenant. L'hospitalité que je les ai offerte, on dirait qu'ils s'en foutaient un peu. Ils vivaient le moment, puis à un moment donné, je me sentais comme de trop dans ma propre maison. Là. Fait que c'est ça.
C'est
bizarre un peu.
Ça m'est arrivé, ça, déjà.
Ça répète tellement un beau
moment. Oui, ouais. Mais je pense que les gens sont dans leurs souvenirs.
Oui, mais aussi, ça peut être l'éducation aussi.
Peut-être aussi. Es-tu beaucoup dans tes souvenirs ou tu es un gars qui vit au jour le jour? On vient de parler d'argent, d'éducation financière. Ouais. Toi, tu vis au jour le jour?
Ben oui. Moi, sérieusement, peut-être c'est-tu la bonne recette ou pas, mais j'aime pas ça, arrêter puis regarder toujours en arrière. Il faut s'en servir. Puis moi, l'écriture de ce livre-là, c'est un peu ça. Je me suis permis pendant 4-5 mois de m'isoler puis d'aller... j'ai repassé énormément, des grands pans de ma vie, pour aller faire la paix avec peut-être des... On a tous des blessures. D'une façon ou d'une autre, on a tous. Puis tu peux avoir la meilleure famille au monde, puis sans s'en rendre compte, on fait des blessures, on en subit des blessures. C'est juste de s'en rendre compte à un moment donné. Puis
tout ça fait partie de, vraiment d'un cheminement personnel. Ce livre-là, qui
s'intitule L'homme de ma vie. Ma vie me ramenait toujours à la même place. Toujours. Ouais. Je voulais comprendre.
Elle te ramenait où, ta vie?
Mon problème était relationnel. Alors, à chaque fois, j'entrais dans une relation, c'est cool, c'est le fun, j'étais généreux, j'étais respectueux, tout ça. Mais par exemple, quand la personne manifestait de qu'est-ce qui va arriver demain, l'année prochaine, je sentais qu'elle voulait un genre d'implication émotionnelle.
L'engagement.
C'est tout ça que je me tassais.
Pas capable de s'engager.
Non, mais c'est ça. Puis je voulais comprendre pourquoi. Puis ce livre-là, c'est exactement ça. Je suis allé. Puis les réponses sont rarement dans le futur.
Tu as raison.
Elles sont tout le temps en arrière.
Et c'est vrai qu'elles sont beaucoup dans notre enfance, avec notre père, notre mère. Ben, toi, tu le dis, toi, ton père, t'as élevé à la dure. Il fallait que tu sois fort.
Mais en même temps, ça m'a aidé. Puis nos systèmes de protection qu'on s'est bâtis nous ont aidés. Même dans ma carrière, ça m'a aidé, moi, d'être fait comme ça, d'être aussi solide. Mais d'un autre côté, tu deviens à un moment donné fatigué d'être fort. Je commence le livre en le disant, je me suis toujours considéré, puis même, j'avais fait à croire aux gens, puis les gens croyaient vraiment que j'étais l'homme le plus fort du monde. Mais la seule force que je possédais, c'était de rien ressentir. Je vivais des demi. Fait qu'une belle grande nouvelle, moi, je la gérais comme une moyenne nouvelle. Une mauvaise grosse nouvelle, ça n'a pas m'atteindre nécessairement si fort que ça. Parce que j'étais fait comme ça, tout était géré par ma tête. Et beaucoup dans la survie. Puis aujourd'hui, je gère beaucoup plus avec mon cœur, puis je vis ma vie au lieu de la survivre, t'sais.
Mais tu parles de la peur de l'abandon, puis de l'abandon.
Ouais.
Ton père qui travaillait beaucoup...
C'est à tous les mois qu'il m'abandonnait, je le voyais comme ça.
Ouais, il s'en allait. C'est vrai que c'est difficile. Ah, on s'imagine que l'abandon, c'est les enfants de la DPJ. Mais dans beaucoup de familles, il y a ça, l'abandon.
Ben, tu peux...
qui sont tout seuls, là, toute la journée.
Juste les familles, tu sais, genre que le père, il n'est pas là de la journée, qui arrive le soir, puis pendant le souper, il passe son temps sur son téléphone à envoyer des emails parce que c'est très important pour la job, pour ça. Un enfant peut se sentir abandonné aussi.
Exact.
J'imagine.
C'est ça.
Parce que là, tu n'as pas aucun moment de qualité ou de moment privilégié avec la personne que tu es. C'est comme ton idole, là, tu sais.
Puis en même temps, tu disais, mon père, quand il partait, il revenait pas longtemps. J'avais l'impression que. J'avais enfin retrouvé moi. Là, il repartait.
Tout le temps.
Puis au bout d'un moment, ma mère, elle, était aussi habituée à vivre sans son conjoint. Quand il arrivait, c'était comme il était de trop, finalement.
Il venait briser un peu sa petite routine. Puis veut pas d'avoir fait certains choix, papa a fait en sorte que, tu sais, je veux dire, c'est aujourd'hui, dans un monde idéal, ces gens-là seraient quittés, là, tu sais.
Ouais.
C'est pas parce qu'ils s'aimaient pas, ils se respectaient pas. C'est parce que la vie les a fait évoluer totalement différent. Puis ça, c'est d'autres choses. Il faut t'accepter ça, là. Tu sais, toi puis moi, demain matin, on est en relation, Isabelle, puis ça va vraiment bien. Puis 3 ans plus tard, la vie a fait en sorte que tu as évolué d'une façon et j'ai évolué d'une autre façon. Il faut l'accepter. Il y a des gens qui viennent dans notre vie pour un moment, puis il y en a que ça va être pour la vie, mais c'est dur, mais il faut que tu l'acceptes. Parce que sinon, je veux dire, tu t'attaches à quelque chose ou tu t'empêches de continuer. Comme s'il n'y avait pas de vie après.
Ta plus longue relation avec quelqu'un?
La plus longue, en nombre d'années, c'est 6 ans. Mais c'est 6 ans dans le déni total. Mais la relation la plus saine que j'ai eue, c'est 3 ans et demi. Hein. C'est de dire que je suis vraiment dans le moment. Puis, exemple, si ça ne fonctionne plus, tu ne vis pas en disant, moi, t'as dit, j'avais dit ça, j'avais fait ça, ou si je m'étais impliqué à ce moment, de telle ou telle façon, peut-être ça aurait fonctionné. Ça a été sain, à mon avis, en cas de ma part, à moi. Puis tu te sens bien là-dedans parce que tu n'as pas ce sentiment-là. Tu n'as pas le sentiment de dire, si j'avais fait ça, peut-être. Il n'y a pas de question.
L'auteur français Frédéric Becbédé, qui venait souvent au Québec à une certaine époque, a publié un livre qui s'appelle « L'amour dure 3 ans ».
Hey, c'est drôle, ça. Hein?
Trouves-tu qu'il a raison?
Plus ou moins une demi-année.
Ouais. Penses-tu être capable d'aller au-delà de ça?
Ben pourquoi pas?
Ou tu te dis finalement, moi, je vais aller d'un 3 ans à un 3 ans, puis c'est bien correct aussi.
Wow, ça peut être aussi, je pourrais décider de dire, si ça ne fonctionne pas dans une relation, de dire je vais rester tout seul. T'sais. Moi, je suis un gars, ça m'a pris 45 ans à
t'apprivoiser.
À m'apprivoiser, puis d'être bien avec moi. Puis je suis plus quelqu'un qui se projette trop loin. C'est le fun d'avoir des petits buts à moyen terme, mais des longs termes, je vois plus ben là. Mais tu sais, je veux dire, je me lève le matin, moi, avec un café, puis je regarde mon actualité ou je lâche un petit coup de fil à ma mère. Puis ce que je vis là, je suis pas en train de me dire, je suis pas être en train de faire ça au lieu de faire ça. Ou à matin, je suis content d'être là, placoté avec toi. Je suis pas en train de me dire, calé, que je pourrais être là-bas au lieu de...
Alors, ah, t'étais à la bonne place, Peter.
Ouais, on essaye. Là.
Ouais, t'étais à la bonne place.
Bouge. Mais il faut que je me ramène. Mon livre, là, de temps en temps, je le rouvre pour me ramener à des affaires.
Tu te relis, ouais.
Parce que les choses qu'il y a là-dedans, ou les blessures que t'as eues, même si t'as fait la paix, ils sont là quand même. Tu sais, tu t'es coupé, là. Ben, tu peux ne plus souffrir de ça, mais... ta voix, la fameuse coupeuse, puis de temps en temps, je veux dire, si tu n'entretiens pas ça, ces bonnes façons de vivre-là, ben tu peux t'éloigner, puis t'as l'espèce d'expression, là, tu t'éloignes de ton X, mais de temps en temps, il faut que je relise quelques trucs pour me ramener.
Ton propre livre, c'est bon.
Ça, c'est
drôle, un peu ce que tu as dit sur ta vie.
Ma Bible.
Oui, exact, ton guide de vie. C'est bon quand c'est ton livre à toi.
Ouais, tu sais, souvent, avant de partir en affaires, c'est important de faire un plan d'affaires, ouais. Tu sais. Puis ton plan d'affaires, il faut toujours que tu t'y rapportes.
Ouais.
Pour savoir où tu es rendu dans ta business. T'sais. Puis les réponses vont être dedans si tu as fait un très bon plan d'affaires. Mais moi, c'est un peu mon plan de vie. T'sais.
On revient tout de suite après avec Peter McLeod. Restez là, tout le monde. Je suis en compagnie de Peter McLeod qui termine sa tournée, mais il est terminé et pas tellement plus libre qu'avant parce que tu as plein de projets.
Des Christy de beaux projets. Premièrement, à la radio, moi, j'ai du plaisir.
Ouais,
c'est quand même
c'est un médium fabuleux.
Yes, on est chanceux. On est très privilégiés d'avoir un micro sur le...
Mais là, tu me parles d'un film.
Ouais, avec mon bon chum, Marc-André Chabot, qui réalise Week-end de bois avec moi. Mais ça fait tellement d'années. C'est lui qui a sorti aussi le livre, là, Dis-moi qui tu es.
Mm-hmm.
C'est lui qui a écrit ça. Mais j'avais raconté un scénario que j'avais écrit il y a 25 ans. Ce scénario-là, je l'avais écrit, puis on avait été le présenter, moi, mon chum Louis-Philippe Rivard, à Paramount.
Uh-huh.
Puis les gens étaient très intéressés, puis à ce moment-là, ils voulaient acheter mon scénario.
Paramount?
Oui, mais ils ne voulaient pas que je fasse partie d'eux, dans le sens où on achète ton idée d'attitude.
Mais tu ne joues pas dedans?
Oui, mais je ne voulais pas jouer dedans. Même aujourd'hui encore, là, on vient de le présenter, notre film, on attend des réponses. Mais je veux pas jouer dedans.
Tu veux faire quoi? Tu serais...
Moi, j'ai écrit le scénario. Puis,
Et c'est quoi le scénario?
Je veux pas vraiment pas voler de punch, mais vite de même. Imaginez quand j'ai 25 ans, j'imaginais que j'avais des enfants, puis je me ramassais à un certain âge. Qu'est-ce que j'aurais à faire en héritage? Exemple à mon enfant. Puis c'est ça. Le film commence, puis c'est un humoriste quand même très connu. J'ai déjà. Pas mal de y a des visages qui me remontent de personnes que je pense que serait écœurant pour faire ce rôle principal-là. Puis cette personne-là décède, puis on se transporte dans une campagne éloignée, un jeune fermier qui est là, en train de taponner dans sa ferme, puis à un moment donné, il rentre dans son petite place où il peut aller dîner, puis luncher. Puis aux nouvelles, on annonce que cette personne-là est décédée. Puis en même temps, il reçoit un téléphone de Montréal. On lui annonce que c'était le fils de ce monsieur-là.
Donc, il hérite.
Oui, mais c'est surtout qu'il ne savait pas du tout.
Il ne savait pas.
Il rentre chez eux, il vit tout seul avec sa mère sur une ferme parce qu'ils ont eu cette ferme-là quand son grand-papa est décédé puis en même temps que sa mère est enceinte. Puis il fait, c'est quoi cette histoire-là? Puis il dit, c'est l'homme que j'ai aimé le plus. Mais quand j'ai vu le genre de carrière qui se dessinait devant lui, j'avais pas envie de le partager, je me suis sauvé avec toi. Être honnête, mais c'est ça. On se transporte avec le notaire qui lit toutes les... Puis le punch, un des punchs, c'est ce qui va hériter.
Wow, c'est bon ça!
Il hérite d'un spectacle.
Oh.
Mais lui, il considère qu'il n'est pas drôle. C'est un fermier, pas rapport, qui n'a pas un sens de l'humour nécessairement. Mais il se retrouve avec un dans le fond, un show complet. Puis en plus, son père fait la mise en scène par des disquettes, par des trucs, comment t'appelles ça, des clés USB. Il s'est filmé à faire la
De façon posthume, il guide son fils.
Oui.
C'est drôle, ça. Est-ce que les gens s'imaginent que les humoristes, avec les tournées, ils ont des enfants ici et là, ils ont toutes sortes de relations ici et là. Il y a un peu chez le
notaire,
ça, ouais.
Quand tu te retrouves chez le notaire, il y en a qui héritent d'un million, l'autre 500 000, l'autre 2
millions. Toi, tu t'es pas découvert un enfant qui traînait quelque part dans une région du Québec après
Non. Mais je te dirais que ma réputation que j'ai bâtie moi-même
un peu quand même.
Un peu surfaite.
C'est vrai?
Ben oui. J'ai toujours été dans la provocation. Tu sais, mon premier spectacle, je suis debout sur un globe terrestre avec un fuck you. Tu peux pas. J'ai commencé comme ça, puis j'ai toujours aimé ça. L'espèce de monstre que j'ai créé, c'est moi qui l'ai créé. Parce que probablement, si je faisais pas de l'humour, si j'étais en périphérie du show business, je serais probablement en publicité. J'adore. J'adore tout ce qui est le marketing. J'adore tout ce qui est.
Fait que là, tu attends une réponse de Paramount? De qui sont ce qui serait les.
Non, à ce moment-là, moi, j'avais protégé mes droits, puis vu. Tu sais, moi, je faisais déjà à ce moment-là, je gagnais très bien ma vie. Fait que j'ai fait non, c'est beau. Je veux pas vous le vendre.
Mais là, vous l'avez représenté.
Ben, quand j'ai raconté ça à Marc-André, il y a 2-3 ans, il fait mais c'est quoi cette histoire-là? C'est pas là. On s'est resté ensemble, pour le mis au goût du jour, puis on a présenté ça, puis les gens autour de moi, mon équipe, je suis entouré, fait hey, on aime ça, on aime vraiment ça, puis. En tout cas, on verra.
Donc, parce c'est Entourage qui s'occupe.
On est tout une gang. On a été chercher des personnes qu'on considère dans les meilleures au Québec pour amener ce projet-là à terme. Mais tu sais, en même temps, c'est toute qu'une bureaucratie, là, sortir un film au Québec. On dirait qu'il y a 2 personnes qui ont le droit de faire des films dans toute cette province-là. Mais de toute façon.
C'est plus 5, là, mais t'as raison.
Non, oui. c'est dans l'exagération qu'on voit les choses. Mais de toute façon, mais tu sais, c'est tellement de belles histoires. C'est vraiment
une histoire. Corde à ton arc, c'est peut-être scénariste de cinéma.
Je l'avais déjà, ça fait 25 ans. C'est juste que je ne suis pas quelqu'un qui compte ces trucs-là. Là. Puis si ce film-là part, j'en ai déjà un autre scénario de près. Là.
Ah oui? Ouais. Donc c'est ta nouvelle passion.
Ben, ça a toujours été, mais c'est juste que je n'en parle pas. Là.
Ton film préféré?
Mon film préféré à vie, Le Zèbre.
Ah oh, oui.
Ouais. Mais j'étais tellement déçu, c'était avec Thierry Lhermitte.
Est-ce que tu connais Alexandre Jardin, tu sais, qui est abonné au Québec?
Ben, oui, fanfan.
Oui.
Ouais. Mais moi, il y a quelques années, 4 ans peut-être, je me suis retrouvé à côté de Thierry
Lhermitte.
J'ai été très déçu. Très déçu.
Ben ouais, qu'est-ce que tu veux? Un peu blasé.
Je sais pas, mais il m'a emmerdé.
Ah ouais.
J'étais pas fier du personnage. Ça, tu sais, tu fais waouh, c'est mon film préféré.
Peter McLeod, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Passez une très belle journée.